Donc, ces jeunes sont souvent catégorisés d'enfants d'immigrés, de seconde génération, français de papier, mais ils sont souvent traités d'étrangers, généralement parqués dans les territoires perdus de la République, des zones de non-droit, des lieux déshérités, de cités de transit, des banlieues pauvres et d'autres milieux défavorisés, ou dire dévalorisés. Leur teint trop basanée ne correspond pas à la couleur locale de l'Hexagone. De qui s'agit-il si ce n'est des beurs? Dans cette communication, nous commencerons par revisiter le terme beurre, tout en évoquant les réalités socioculturelles auxquelles il renvoie. Ensuite, nous passerons rapidement en revue la genèse de la littérature dite beurre. Cela nous emmènera à présenter brièvement la biographie de Mehdi Charef, un des auteurs phares de ce courant littéraire. Ensuite, nous définirons ce que nous entendons par la notion de tolérance dans cette étude. À travers le prisme de cette même notion de tolérance, nous examinerons deux de ses œuvres, le thé aux arènes d'Archimède et plus particulièrement le Harki de Meriem. L'objectif de cette analyse sera de démontrer comment dans ces deux ouvrages, Mehdi Charef, consciemment ou pas, écrit et décrit la tolérance. Donc qu'est-ce qu'un beurre? Le mot tire ses racines du mot arabe en verlan. Un beurre ou une beurette au féminin est un descendant maghrébin qui est né ou qui a grandi en France. Précisons d'entrée de jeu que dans cette présente communication, l'emploi du terme beurre ne porte pas de connotation péjorative. Il sert simplement à distinguer, à ne pas confondre ce groupe identitaire en question avec un groupe d'Arabes littéralement immigrés ou voire clandestins sans papier. La première vague donc des beurs s'est faite connaître aux yeux de la France au début des années 80 par la Marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983, qui a eu une grande exposition médiatique dans tous les territoires hexagonaux. Cette manifestation a permis aux concernés de crier un ras-le-bol contre les injustices sociales et les multiples crimes racistes de policiers commis sur tous les bronzés vivant sur le sol français à cette époque. Donc c'est d'ailleurs après la brutalité policière commise sur un jeune beurre de la cité des Minguettes, donc à Lyon, qui a été entreprise cette démarche revendicatrice. Toumi Djadjai, j'espère que je n'écorche pas son nom, ce fils de Harki, inspiré par le pacifisme de Gandhi et de Martin Luther King, sur son lit d'hôpital, appelle à une marche de justice sociale cheminant toute la France, partant de Marseille et finissant à l'Élysée en présence du président d'antan, François Mitterrand. Cependant, si certains beurs, tels que Djadjai, ont affirmé leurs convictions et revendications par des actions sociopolitiques, comme la marche pour l'inégalité sociale et contre le racisme, d'autres victimes rugissantes ont préféré les manifester par des actions littéraires. Cela a créé le courant littéraire appelé la littérature beur. Plusieurs grands écrivains ont émergé de ce mouvement. Dans cette liste se trouvent Azouz Begag, Nasser Kétan ou encore Farida Belghoub et l'incontournable Mehdi Charef. Ce dernier est né en Algérie, à Magnia, en 1952, et émigre en France à l'âge de 10 ans pour rejoindre un père analphabète qui travaille en tant que terrassier. Charef passe sa jeunesse entre bidonville, cité de transit et prison. Avant sa rédemption sociale en tant que cinéaste et écrivain, il suit une formation de mécanicien qui lui permet de travailler à l'usine de 1970 à 1983. Dans cette même année, son talent d'écrivain explose grâce à son premier roman intitulé « Le thé aux arènes d'Archimède ». Cet ouvrage lui donne une tribune nationale et lui permet d'assister à l'émission littéraire culte de Bernard Pivot, apostrophe. Depuis ce jour, Charef a écrit plusieurs romans et a réalisé plusieurs films et une pièce de théâtre. Les thématiques centrales de ses œuvres orbitent autour de l'immigration, de l'intégration et de la justice sociale. Charef exploite ces thématiques en prenant pour appui la communauté maghrébine. Néanmoins, peut-on parler de justice et de paix sociale sans parler de tolérance? Avant d'analyser comment la tolérance est écrite et décrite dans le thé aux arènes d'Archimède et le plus particulièrement dans le Harki de Meriem, définissons cette notion. Par tolérance, nous ne faisons pas allusion à la personne hautaine et imbue de soi qui tolère par grâce et miséricorde. Dans la tolérance, est-elle une vertu? Selon Baldine Saint-Giron, la tolérance n'est pas une question de bonnes œuvres ni de charité chrétienne. Je cite. Tolérer autrui n'est pas le reconnaître comme un alter ego, mais seulement admettre son droit à l'existence, sans se soucier d'entrer en relation d'amitié et d'entraide avec lui. La tolérance établit un jugement de valeur en même temps qu'une dissymétrie entre le tolérant et le toléré. Tolérer, je suis toujours en position de faiblesse. Giron poursuit en citant que l'écrivain français Jean Cocteau ne supportait pas qu'on le tolère. Donc je cite, s'inscrivant de mauvais côté de la relation de tolérance, Cocteau rappela opportunément cette évidence trop oubliée. Giron cite Cocteau s'indignant, je ne supporte pas qu'on me tolère, je m'indigne de ce qu'on ne m'accorde pas mieux que la simple tolérance. Donc la tolérance charitable et non respectable dont Giron fait référence à travers la citation de Cocteau permet aux tolérants de ressentir un sentiment de puissance et de supériorité envers le pauvre toléré. Cette notion revient à une forme de tolérance malveillante, sinon à une forme d'intolérance. La notion de tolérance dont nous souhaitons aborder dans cette étude ne s'agit pas non plus de celle qui se manifeste par une totale indifférence envers son prochain. En ce sens que cette dernière donne une liberté sans borne à tout propos contraire et contradictoire à ses convictions fondamentales. Et ce, par souci de liberté d'expression ou du fait que chaque être humain possède une réalité propre à soi qui ne peut être jugée par une autre personne. Donc, bien que cette idée de relativisme ne soit pas totalement fausse, il convient d'avancer que liberté d'expression ou pas, certaines opinions sont frauduleuses, pernicieuses et dangereuses. En d'autres mots, au nom de la tolérance, nous ne pouvons pas tolérer l'intolérable. Donc la notion de tolérance plus ou moins adéquate aux deux romans de Charette semble être celle dont Georges Sarton évoque sur la tolérance intellectuelle. Celui-ci écrit que la vraie tolérance implique à la fois une grande sympathie pour autrui et une profonde humilité. Sans la sympathie, la tolérance resterait tout fait passif et sans vertu. Ce serait plutôt de l'indifférence et de l'égoïsme. Sans humilité, elle se détruirait elle-même. La conscience de notre supériorité nous conduirait tôt ou tard à persécuter nos frères humains pour leur bien. Fin de citation. Charef apparaît comprendre et mettre en pratique cette idée de tolérance en prenant une France multiculturelle et interculturelle dans le TORM, dans ces deux romans. Dans le Archi de Meriem, Charef dépeint plusieurs personnages ayant une tolérance de bienveillance envers des cultures différentes à la leur. Céline, jeune beurre de 22 ans, est un exemple. Son voisin de palier, Pierre, un Français de souche, ivrogne, lunatique, xénophobe et raciste. Et le narrateur explique qu'il dit « Pierre, qui gagnait par la psychose de l'insécurité, s'était aussi payé un fusil au cas où on l'attaquerait chez lui. Mais pour Pierre aussi, c'était la crainte de l'étranger, de l'adolescent basané. Même si dans son quartier, à part Selim, il n'y avait guère de cette racaille comme il disait. » Fin de citation. Cependant, tous les défauts et la paranoïa de Pierre n'éloignent pas la sympathie de Selim envers lui. Selim va même jusqu'à prendre soin de Pierre en le raccompagnant chez lui lorsque l'alcoolique se retrouve en état d'ébriété. Le narrateur écrit que Selim attendait Pierre saoul pour le ramener chez lui. Soulignons que la perte de contrôle de Pierre due à l'abus d'alcool déteint sur son identité. L'alcool lui fait se conduire différemment de la façon qu'il se comporterait s'il était à jeun. Cette substance noie son cerveau dans un océan de toxicité qui l'empêche de se reconnaître. Dire que Pierre a besoin d'être raccompagné chez lui par quelqu'un, finalement, ça l'infantilise. Céline devient une figure paternelle face à son voisin, pour son voisin. Pierre a besoin d'assistance pour rentrer dans sa maison. Au-delà de cette aide, le fait que Céline raccompagne Pierre chez lui montre le réenracinement de ce dernier dans son oikos. Ce chez-lui qui lui permet de construire son identité et de trouver ses repères identitaires, culturels, après une période d'ivresse. Par ailleurs, l'acte de bienveillance de Selim dévoile une sincère tolérance envers son voisin de palier. Selim passe outre le fait que Pierre soit xénophobe et raciste et l'aide à retrouver le chemin de sa maison. Cette aide qu'il offre à son voisin pour le raccompagner du bar jusqu'à son palier dévoile aussi une proximité physique entre le beurre et le Français de souche. Les deux sont coude à coude, autrement dit, ils se serrent les coudes. En d'autres termes, cette solidarité interculturelle que Charef souhaite dépeindre s'illustre par le soutien physique apporté par Selim envers Pierre lorsqu'il est en état déplorable. La tolérance interculturelle entre Selim et Pierre peut se constater aussi à travers simplement leur voisinage. Cela montre la culture beurre et la culture franco-gauloise côte à côte. Cette proximité de deux identités opposées n'est pas un hasard. Dans le thé aux arènes d'Archimède, elle dépasse même l'image du côte à côte en montrant deux cultures qui ne font pas que se toucher mais qui s'entremêlent. Majid, le personnage principal du roman, est de culture berbère et a pour voisin une famille française de souche monoparentale. La mère de Majid, Malika, garde le petit garçon de sa voisine, Josette, en tant que nourrice. Sharef montre que les relations de ce voisinage dépassent un simple vivre ensemble et montrent un réel rapport affectif entre ces deux identités culturelles différentes. En effet, le rôle de nourrice de Malika est similaire à celui d'une mère. Malika devient une mère de substitution puisque, comme une mère, elle prend soin de l'enfant en le gardant dans sa maison, en l'élevant et en le nourrissant. Symboliquement, elle donne le sein au petit garçon. Cela crée un attachement émotionnel entre le petit garçon français et la maman arabe. Cette pluralité ethnique et proximité relationnelle entre cultures différentes se constate aussi dans les amitiés du fils de Malika. Le narrateur décrit une scène où Majid rejoint ses amis. Donc je cite, aux acacias, Majid va jusqu'au porche central où il voit tous ses copains. Il y a Bankston, l'antillais, Thierry, surnommé Pichenette, James, algérien né en France, Bibiche, algérien né en France, Anita, la seule nana de la bande, née de père algérien et de mère française. Et enfin, Pat, le pote Pat. Donc, dans ce passage, la représentation d'une jeunesse française multicolore est évidente. Ce dernier, donc Mehdi Sharef, prend le temps de citer la nationalité et ou les origines des amis de Majib afin de pouvoir faire ressortir la diversité culturelle de ce groupe. Par exemple, le terme « algérien né en France » renvoie à une double identité, la raciale et la culturelle. Ici, « algérien » est une autre façon de dire « arabe ». Puis, être né en France sous-entend la connaissance des codes culturels du pays en question. Au-delà des identités françaises et algériennes, le narrateur décrit aussi l'identité antillaise, laquelle renvoie à une culture majoritairement noire. Tout ce brassage ethnique et culturel est représenté symboliquement par le métissage biologique franco-algérien de la seule nana du groupe Anita. En fait, ce groupe d'amis représente une France black-blanc-beurre dont on a tant parlé les médias après la victoire de la Coupe du Monde 98 de l'équipe de France de football au Stade de France de Saint-Denis. Dans le Théo-Harem, un peu de couleur dans la grisaille, Daniel Marx Koussas atteste que Pat, le français de souche, est un ami des Basanés et de Noirs. Dans le Harki de Meriel, le meilleur ami de Selim s'appelle Marc. Bien que ce nom occidental ne prouve pas inéluctablement que son détenteur soit un français de souche, en connaissant à quel point il est important pour Sharef de présenter une France pluriculturelle, tout porte à croire que Marc et Selim soient un autre binôme biculturel de français de souche et de beurre comme Majid et Pat dans le thé aux arènes d'Archimède. De toute façon, même si Marc s'avère ne pas être blanc ou français de souche, il n'est sûrement pas arabe non plus. Là encore, cette France arc-en-ciel qui s'évertue de peindre Sharef à travers des éléments de proximité et d'unité de groupes identitaires variés fait ressortir une tolérance interculturelle. La tolérance ethnique se perçoit aussi dans les micro-détails. Par exemple, dans le Harki de Meriem, la mère de Selim, Meriem, avec l'argent de son mari, achète du tissu oriental dans un vieux magasin juif de Reims, écrit le narrateur. Dans cette simple phrase, le narrateur inclut trois identités ethniques différentes. Le tissu oriental renvoie à toutes ces cultures de pays d'Orient et du Maghreb. Le magasin est tenu par un juif qui est situé à Reims, une ville française. Bien sûr, ces trois ethnies différentes représentent aussi trois religions différentes. La musulmane, la juive et la chrétienne. Assembler ces trois ethnies différentes dans une même phrase lie ces trois identités dans une seule et même idée. Ces trois groupes ethniques deviennent inséparables l'une de l'autre. C'est une autre forme de métissage culturel qu'emploie Sharef, sauf que cette fois-ci, elle est scripturale. Ce style d'écriture est reproduit une seconde fois dans la phrase suivante. Dans le gourbi du vieux juif de Reims, ils dénichèrent aussi un disque de Shekhtar Remiti. Et c'est avec cette reine du rail qu'ils étrennèrent leur tépaz. Fin de citation. Ici, Sharef accentue ce métissage en employant des mots qui rappellent directement une identité ethnique et culturelle bien particulière. Par exemple, le mot gourbi est un mot d'origine arabe pour indiquer les habitations précaires situées en Afrique du Nord. Pour définir une habitation similaire en France, l'emploi de mots tels que baraque ou cabane aurait été plus approprié. Outre ce nom commun et celui de rail, lequel représente un style de chanson culturelle de la culture algérienne, Sharef renforce cette identité maghrébine avec un nom propre, Shekhtar Remiti. L'association de ces trois substantifs renvoie à trois marqueurs identitaires incontournables. Le gourbi représente la maison par l'enracinement à la terre. Le raï représente la tradition orale, poétique et la culture musicale par la chanson. Et Shekhtar Emiti représente l'identité algérienne incarnée par une personne. Il n'est pas sans remarquer que celui qui possède ce disque de raï est un juif. Est-ce que cela insinuerait qu'il soit familier à cette culture algérienne? Donc ça, c'est une question que je me pose. Notons aussi que le tepaz dans lequel joue cette chanson n'est pas simplement un tourne-disque. Cet électrophone porte le nom de son créateur, qui n'est rien d'autre qu'un Français. Donc une fois de plus, les personnages montrent une ouverture d'esprit de partage envers d'autres cultures. Sharef s'amuse à métisser les cultures et les ethnies entre elles en les faisant paraître harmonieusement. Oh. Toujours dans le Harki de Mériel, lorsque l'armée française perd la guerre contre l'armée algérienne indépendantiste, les Harkis et les pieds noirs doivent quitter le pays au plus vite. Donc en direction de la France, un couple juif d'un âge avancé est à bord d'un bateau et le mari qui parle la langue arabe et récite un poème qu'il n'arrivait jamais à se rappeler quand il souhaitait le réciter à sa femme. Son épouse s'exclame, je cite, « Pendant des années, tu as voulu me le réciter ce poème et tu ne t'en souvenais jamais. » Et quand je te disais « cherche bien dans la tête », tu me répondais « j'avais 9 ans quand je l'ai appris à la médersa. Alors je m'en souviens plus et tu te fâchais. » S'il peut y avoir quelques doutes à propos de l'affection de la culture arabe du vendeur juif de musique arabe, s'il peut y avoir quelques doutes à propos de l'affection de la culture arabe du vendeur juif de musique arabe à Reims, l'amour que porte celui-ci à la culture algérienne est sans équivoque. Le fait que ce soit lorsqu'il quitte l'espace algérien qu'il arrive enfin à se souvenir du poème soulève un aspect émotif. Cet homme juif n'arrive pas à se rappeler de la chanson de son enfance avec sa tête, mais il peut s'en rappeler avec son cœur. Et pour cela, il fallait qu'il subisse un choc émotionnel aussi vivide qu'un départ définitif pour la France. Cela laisse comprendre en filigrane que l'Algérie détient une place émotionnelle et non intellectuelle à ses yeux. C'est la terre qu'il a vue grandir, se construire et vieillir. C'est donc émotionnellement éprouvant pour lui de voir que ce ne sera pas la terre qui le verra aussi mourir. La terre algérienne et son amour d'enfance, partir, crée au plus profond de cet homme un déchirement identitaire douloureux, tel un enfant arraché de force à ses parents. Donc cet amour pour la terre algérienne et par extension sa culture s'accentue encore plus à travers l'ironie subtile qui se trouve dans ce passage. Remarquons qu'il n'a jamais réussi à réciter le poème à sa femme, mais une fois qu'il quitte l'Algérie, le poème lui revient soudainement. Le poème en général et plus particulièrement celui-ci renvoie aux sentiments et aux émotions et à l'affection. Le poème symbolise implicitement que ce monsieur juif aime plus l'Algérie qu'il aime sa femme. Nous pouvons peut-être même avancer qu'il aime plus la culture algérienne que la culture juive si nous partons du principe que sa femme incarne une partie de cette culture. Sharef continue cette symbiose interethnique entre juifs et arabes à l'arrivée du bateau en France, en terre française. Le narrateur annonce qu'une fois le bateau accosta en France, arabes et juifs se quittèrent sur le quai, ils s'embrassèrent. Là encore, cela renvoie à l'affection et à l'amour. Un peu plus loin, le narrateur révèle que ceux qui par hasard allaient dans la même direction restaient soudés les uns les autres. Dans ce passage, une fraternité se crée entre deux peuples qui normalement se haient. Ses frères ennemis mettent du côté leur contentieux. Rappelons le conflit israélo-palestinien et nous pouvons remonter jusqu'au conflit fraternel entre Isaac, par lequel descendent les Juifs, et Ismaël, par lequel descendent les Arabes. Sharef décrit deux peuples qui ne s'attardent pas sur le passé, mais se focalisent sur l'avenir. Il faut comprendre, être soudé et aller dans la même direction comme deux peuples unis main dans la main en marchant en avant vers un même destin. Ces deux peuples possèdent une histoire différente, mais peuvent construire un avenir en commun. À travers les actions de solidarité de personnages de ces deux groupes ethniques antagonistes, Sharef prône une tolérance face à la diversité. Donc, dans cette communication a eu pour but de démontrer comment Sharef écrit et décrit la tolérance dans deux de ses textes romanesques. Ces derniers montrent à travers ces deux romans une ouverture d'esprit à travers non pas simplement un multiculturalisme, mais un interculturalisme entre les diverses cultures ancrées en France. En fin de compte, il faudrait se poser la question si la notion de tolérance ethnique comme écrite et décrite dans le Théosarème d'Archiamel et dans le Harki de Mériel est possible d'exister dans une société réelle, ou bien si elle est tout simplement une notion utopique de doux rêveur et d'humaniste au grand cœur. Finalement, peut-être que Sharef n'est ni un rêveur ni un utopiste, mais un visionnaire qui perçoit un monde occidental frappé par la mondialisation, touchés par l'immigration et qui subit le retour du boomerang de la colonisation. Et parmi tout cela, il sait qu'il faut faire un choix, vivre en solidaire ou mourir en solitaire. Voilà.